le genre de
Mati Diop.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Mati Diop, est-ce que vous vous trouvez féminine?
Oui, très. Mais masculine aussi.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, qui a beaucoup fait parler d'elle lors du dernier festival de Cannes. Elle y représentait le Sénégal et elle en est en effet repartie à 37 ans avec le grand prix du jury pour son premier long métrage, le superbe Atlantique, qui vient de sortir. Alors c'est un film hanté, nocturne, initiatique, qui nous entraîne dans le Dakar contemporain et tente de trouver une forme, ou plutôt des formes, puisque le film est mouvant, transgenre, à la fois politique, romantique, fantastique, pour raconter le monde d'aujourd'hui. Plusieurs histoires s'entrelacent dans Atlantique, l'histoire post-coloniale et ses répercussions aujourd'hui, la migration, il y a des histoires de fantômes et également une histoire d'amour tragique, celle de Ada et Souleymane, deux jeunes Dakarois. On en écoute un extrait. Voilà, c'était un extrait d'Atlantique. En version originale, le film a été tourné en langue wolof. Alors c'est une scène où Ada et Souleymane se retrouvent près de l'océan et vivent une de leurs dernières étreintes. Peu après, en effet, leur histoire va prendre un tour beaucoup plus sombre. Ada doit se marier à un autre homme, plus riche, et Souleymane va tenter sa chance en essayant de franchir l'Atlantique vers Gibraltar. « Quand tu pars, tu es déjà mort », dit l'un des protagonistes du film. Alors on va parler de tout cela ce soir avec Mati Diop, de questions de représentation, de visibilité dans le cinéma, mais aussi de ses identités de cinéaste, de femme, et de cette identité métisse qu'elle a mis du temps à construire et à s'approprier. Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Mati Diop.
Nova.
Dans le genre. L'enfance.
Mati Diop, où et dans quel type de famille avez-vous grandi ?
À Paris. Dans le 12e, dans une famille qu'on dira mixte, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ma mère est blanche, mon père est noir. Ma mère est française, mon père est sénégalais.
Oui, votre père, c'est un musicien assez célèbre, voici ce, ouais. Voici ce job. Dans cette émission, on
parle... Il faut aussi dire que ma mère... si vous parlez de mon père, il faut parler de ma mère, sinon
non,
elle
ne
va pas être contente.
Je commence par votre père. On va parler de votre mère, vous inquiétez pas. Donc, on parle un peu dans cette émission de normes de masculinité, de normes de féminité, enfin de perception qu'on a de ça. Mm-hmm. Votre père, c'est, je dis c'était parce que je parle du souvenir que vous en aviez, ou la perception que vous en aviez quand vous étiez plus jeune, c'était quel type d'homme? C'est un homme que vous diriez viril, masculin? Vous le décririez comment, votre père?
Pour moi, c'était avant tout un musicien, avant tout un artiste. Enfin, c'est ce qu'il caractérisait, quoi. C'était vraiment son monde, son monde à lui... La musique, il était vachement dans sa tête, dans ses mélodies, dans son truc. Il était dans sa bulle. Pour moi, c'était quelqu'un qui était à la fois là, complètement ailleurs.
C'est plutôt ça que vous avez retenu, en fait. Mmh. Et vous diriez, en apparence, c'est un homme que vous diriez plutôt masculin, plutôt qui a du...
Oui. Mais c'est drôle. Je me suis jamais posé la question. Alors que ma mère, je pourrais dire qu'elle avait clairement, tout en étant féminine, une attitude et un rapport à pas mal de choses plutôt viril, masculine.
Dans quel sens ?
Mon père, j'aurais du mal à définir précisément. Je trouve qu'il appartient pas forcément à un style, ouais, d'homme en particulier, où il est à la fois très masculin, très féminin. Puis voilà, c'est un homme africain avec tout ce que ça comporte de spécificités culturelles aussi. Enfin,
avec des codes différents, vous voulez dire ?
Ouais, et en même temps, des codes différents. Et mais à travers lesquels, enfin, envers lesquels il se définissait aussi à contre-courant. Donc c'est complexe.
C'était complexe, oui, bien sûr. Ouais. Et votre mère, vous disiez, c'était une femme qui était féminine, c'est-à-dire qu'elle avait une apparence féminine ou c'est une femme...
Ouais, elle avait une apparence féminine, très belle femme.
Elle faisait quoi, votre mère? Elle achetait
alors,
à
l'origine, elle est photographe. Elle faisait beaucoup de portraits, plutôt documentaires, en voyage, de portraits, en fait, comme Nan Goldin filme, photographie son entourage, par exemple, ce genre de portraits-là. Ouais. Mais aussi, elle a fait d'ailleurs pas mal de photos en Afrique. Et ensuite, elle est devenue acheteuse d'art dans la pub. Et c'est une sorte de DA, en fait, acheteuse d'art. C'est en gros, c'est la personne qui choisit toute l'équipe artistique.
Et vous disiez, c'était une femme, donc oui, qui avait une apparence...
Qui avait une apparence féminine, mais en même temps, une manière de s'habiller, pas du tout, dans aucun cliché de la féminité. Une sorte de... Ouais, elle avait beaucoup de style. Elle a un côté assez androgyne, en fait. Elle est à la fois très féminine et assez mec. Mais aussi, mais c'est son caractère en fait qui fait qu'elle est.
Et vous disiez dans une interview, il y a une filiation d'indépendance entre nous.
Ouais, il paraît que j'ai dit ça.
Votre mère vous a beaucoup influencé.
Oui,
c'est
oui,
elle
beaucoup.
Qui vous a élevé principalement.
Principalement, ouais. Depuis mes 8 ans. Oui, elle m'a ouvert à énormément de choses. Déjà elle-même. Quand j'étais enfant, était passionnée de d'art, quoi, de photos, de peintures. Donc j'ai eu la chance de grandir au sein d'une sorte de mosaïque d'images vraiment hyper variées. Il y avait beaucoup de passages à la maison d'artistes. Elle faisait des castings. Elle était hyper active et très créative. Et du coup, c'est vrai que ça m'a ouvert très tôt à des multitudes de mondes, de classes. Et puis c'est elle qui m'a emmenée en Afrique, c'est elle qui a fait en sorte qu'après la séparation avec mon père qui est sénégalais, je préserve mon lien à ma famille africaine, ce qui était quand même vraiment fort, je trouve. Et j'ai grandi avec la figure d'une femme célibataire qui gagne bien sa vie et qui fait et qui s'exprime à travers ce qu'elle fait.
Qui aime ce qu'elle fait.
Et qui s'assume de A à Z. Donc c'est vrai que à l'époque, mine de rien, c'était quand même assez. J'ai vraiment grandi avec une figure féminine très forte en fait.
On écoute un premier titre que vous avez choisi pour nous, Mati Diop. C'est un titre de votre père. Voici Diop, Ramatou. On écoute ça. Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours avec la cinéaste Mati Diop. Mati Diop, on parlait de vos parents, un petit peu de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Vous parliez de votre mère, cette femme très indépendante, ce modèle un petit peu qui vous avait élevé, enfin principalement en tout cas. Vous étiez quel type d'enfant ?
J'étais à la fois très joyeuse, très dynamique et active, et en même temps je très 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 dans ma bulle, très observatrice. Comme j'étais fille unique, je pense que j'avais un univers intérieur très très riche et que j'étais vachement dans ma tête avec des histoires que je me racontais, que je m'inventais, plein de personnages, une galerie d'amis imaginaires. Évidemment, quoi, le stéréotype de l'enfant unique qui. Alors après, j'étais pas isolée non plus, j'avais beaucoup de...
Vous aviez des amis, quoi.
Oui, j'avais beaucoup d'amis, et puis je pense que ma mère, comme j'avais pas de frères et sœurs, elle faisait tout pour organiser des trucs avec les enfants de ses amis, donc qui sont un peu devenus mes cousines, mes cousins. Mais c'est vrai que j'étais à la fois une enfant comme les autres, mais je pense que j'avais quand même une sorte de gravité, une sorte de regard un peu, peut-être à des moments... déjà d'adulte sur certaines choses. Ça dépendait des sujets, en fait. Je pense que je pouvais être assez grave et précoce sur certains points et en même temps très, très, très enfant sur d'autres.
Et au moment de la puberté, de l'adolescence, en fait, quand il a fallu devenir une jeune femme, en fait, est-ce que ça a été quelque chose qui a été facile pour vous, l'adoption de ces codes-là, cette identité-là, ou c'est quelque chose qui a été difficile ?
Non, rétrospectivement, je pense que c'était complexe. Je donnais l'apparence d'être une adolescente populaire... et bien dans sa peau, mais c'était pas forcément le cas. Je pense que ça devait être difficile de démêler les fils de ma double culture, des modèles hommes-femmes dans lesquels j'ai grandi. Enfin, c'est très très particulier, le métissage, c'est à la fois d'une grande richesse quand on a la chance d'avoir les clés au bon moment, déconstruire la complexité de ce qu'est le métissage, qui est vraiment une expérience passionnante, mais qui prend un certain temps, je pense, à vraiment...
À penser, à s'approprier.
Ouais, ça prend du temps.
Mais vous aviez l'impression d'être, bon, ce qui est le cas de plein d'adolescents, mais en fait, d'être différente des autres, vous...
Ah bah, total, ouais.
Totalement ?
Ouais.
Vous étiez quoi, dans le 12e, c'est ça, à Paris ?
J'étais dans le 12e, et oui, bah, je me suis toujours sentie différente, ouais. Je multipliais un peu les complexités, à la fois ce métissage, le fait de pas être dans une famille monoparentale, de pas du tout avoir une mère qui correspond
au stéréotype
féminin. Ouais. D'avoir eu des parents qui étaient avant tout des artistes avant d'être des parents, quelque part. Et puis surtout, cette espèce de situation de, à la fois, j'étais pas blanche et je ne le suis pas. Et donc, de pas du tout. Moi, par exemple, à 13 ans, à 12 ans, à 11 ans, j'étais pas, clairement, c'était compliqué de pas m'appeler Jennifer, de pas être blonde aux yeux bleus, de pas bénéficier de cette apparence qui rendait tout facile, en fait.
Ça, vous le pensiez ?
Ben, bien sûr, moi j'avais envie de m'appeler Jennifer, d'être blonde, de porter des t-shirts chevignon et de ressembler à toutes les filles des séries américaines.
Intégrée, quoi.
Sauf que c'était pas du tout le cas, j'avais les cheveux bouclés, j'avais des poignées de sahéliennes tellement fins que je les cachais parce que c'était trop bizarre, que je voulais me raidir les cheveux. Enfin, le cliché de la métisse ou de la noire en France. Mais évidemment, ça met beaucoup de temps avant de déconstruire cette aliénation-là. Et puis le jour où je l'ai déconstruite, je l'ai regardée presque avec beaucoup de tendresse, parce que finalement, c'est pas méchant une fois qu'on comprend en fait d'où ça vient et que c'est surtout difficile d'y échapper, tellement la manière dont le racisme systémique est tellement puissant que c'est impossible d'y échapper. On peut pas, adolescent, échapper à ce... Et puis, si c'est pas racial, c'est autre chose. C'est de toute façon à partir d'une norme, qu'elle soit raciale, qu'elle soit au niveau du genre, qu'elle soit au niveau de la classe. On est de toute façon confronté au fait de ne pas coller à la norme. Et en même temps, comme que ce soit mon père ou mon oncle véhiculait une image de l'Afrique que je trouvais forte et que je trouvais solide et qui me semblait justement valable, c'est-à-dire, en tout cas dans les films de mon oncle, une Afrique regardée par un Africain et pas par un œil colonisé.
Votre oncle, qui était un grand cinéaste sénégalais. Hein.
Oui, Djibril Diop Mambéty. Du coup, je pense que j'ai hérité de tous les complexes dont on hérite quand on n'est pas blanc, entouré d'un entourage blanc. Et en même temps, j'avais une sorte de fierté, de conscience d'où je venais, d'une famille qui, elle-même, avait un rapport à son identité non aliénée, quoi. Et ça, c'est énorme. Donc, même si le fil a démêlé a pris du temps et que j'ai fait tout un travail de déconstruction pour, au final, vivre mon métissage, ma double culture de manière hyper... d'en faire une force et d'habiter pleinement ces deux cultures qui ne sont pas séparées, qui sont totalement imbriquées. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est complexe, quoi. C'est complexe, mais c'est fascinant.
Ouais, et vous disiez, je regrettais à l'adolescence de ne pas m'appeler Jennifer et de ne pas ressembler à ces filles que je voyais dans les séries télévisées de l'époque. Justement, j'allais vous demander s'il y avait des points d'identification justement à l'adolescence dans le cinéma. Je ne sais pas si c'était déjà important pour vous à l'époque, la pop culture, la chanson, enfin je ne sais pas ce qui vous parlait. Est-ce qu'il y avait des figures comme ça de féminité, de masculinité qui vous plaisaient, enfin, des choses qui, vous savez, ça aide à l'adolescence à pas vraiment se construire, mais enfin, se projeter, se...
Bah, il y en a eu des centaines. Après, il y en a eu des blanches, il y en a eu des noires. Et
vous vous souvenez un petit peu? Enfin, il y en a une ou deux qui vous viendraient là ou...
des personnalités sur lesquelles j'ai complètement cristallisé.
Ouais.
Il y a Michael Jackson, ce qui est d'ailleurs assez énorme puisqu'il est à la base il était noir et qu'il est devenu quand même très très blanc. Donc c'est quand même assez comique quand on est métisse de focaliser sur lui. Mais bon, je pense que tout le monde focalise sur
lui. Pourquoi comique vous dites?
Quoi?
Pourquoi comique, vous dites?
Bah parce qu'il est, il était noir, il est devenu blanc. Donc en tant que métis, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est troublant. Enfin, c'est quand même une figure qui incarne à elle seule la névrose raciale.
Ouais,
enfin, complètement. C'est juste énorme.
Ouais.
Et en fait, il y a eu tellement de... Il y a eu lui, j'ai vraiment beaucoup bloqué sur Alia. Ensuite,
qui était géniale.
Une jeune chanteuse de R&B.
Ouais, qui a disparu.
Qui est décédée prématurément. Je voulais devenir chanteuse, moi. Je voulais, à la base, c'était mon rêve, c'était de chanter, de devenir chanteuse, un peu comme Alia. Enfin, je voulais faire de ça, chanter comme ça. Enfin, ce genre de musique-là. Sauf que je me souviens d'une période très bizarre où j'étais ado et il y avait comme deux clans, mais ça c'était très français en fait. Il fallait choisir entre la R&B et la musique grunge, qu'on pouvait pas aimer les deux, qu'on était soit un skater blanc aux cheveux longs et crades, soit une petite minette qui écoute de la R&B et qui, dont les cheveux sentent la vanille et le coco. Et les deux, c'était pas possible. Et moi, c'était très compliqué pour moi en tant que métisse parce que d'un côté, j'étais fascinée par Kit de Larry Clark, j'adorais Nirvana et j'adorais et je m'identifiais complètement à cette jeunesse. Et en même temps, j'écoutais aussi les Boys to Men et j'avais l'impression que c'était un peu un sacrilège d'écouter les deux, que c'était compliqué, quoi, et il fallait choisir son camp. Et d'ailleurs, je culpabilisais un peu d'écouter de la R&B parce que perçu par les gens qui écoutaient du grunge, c'était vraiment hyper naze, de la soupe.
Ouais, c'est vrai.
Donc, mais ça, c'était le problème. C'était un problème français, en fait. On pouvait pas aimer les deux, quoi.
Dans le genre de
Mati Diop.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Masculin.
Musclé.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Cyril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de la cinéaste Mati Diop. Elle vient de se remporter un grand prix du jury à Cannes avec Atlantique, un premier film bouleversant et extrêmement juste surtout. On va en parler bien sûr, mais juste avant, on écoute un peu de musique, c'est un morceau de sa sélection. C'est Sébastien Tellier, Sexual Sportswear sur Nova. We'll be right back. Sébastien Tellier sur Nova, c'est un ancien de vos choix, Mathy Diop. Alors pourquoi Sébastien Tellier?
Quand j'ai su qu'il fallait que je réunisse 4 morceaux, celui-là ne pouvait pas ne pas y être parce que c'est un morceau que j'ai énormément écouté pendant la naissance du projet, c'est-à-dire même avant l'écriture, au moment où les images commençaient à se mettre en place dans ma tête. C'est vraiment cette musique-là, crépusculaire, sombre, fantastique, que j'ai écoutée mais des milliards de fois au moment où Atlantique, le long métrage, était en train d'à peine émerger dans ma tête, en fait.
Alors, on va en parler, mais avant, j'aimerais qu'on continue un tout petit peu à raconter votre parcours. Donc, on vous a laissé un peu à l'adolescence, après, vous avez pensé à faire Sciences Po, et puis, en fait, vous dites que vous ne vous sentiez pas très à l'aise dans ce dispositif élève-professeur. Vous avez commencé à faire des petits boulots, à travailler au théâtre, à faire des créations sonores, à faire des résidences. Vous avez été au Frénois, et puis, vous avez fait un premier court-métrage. Et vous êtes aussi devenue actrice, en fait. Et alors, on va écouter un extrait. Et une voix, je crois, qui est très importante pour vous et dans votre parcours.
C'est vrai, il y a tout ici. Pourquoi aller chercher ailleurs ?
Papa.
Sens-toi libre.
Elle se sent française. Elle se sent pas des îles. Peut-être quand elle dit tout le monde part tout le temps, c'est parce qu'elle sent qu'elle, elle doit partir. C'est ça qu'elle craint le plus, au fond.
Quand on se révolte, on le fait pas pour une culture propre. On se révolte simplement parce qu'à plus d'un titre, on n'arrive plus à respirer.
Voilà, c'était la voix de Claire Denis qui vous a donné un rôle dans 35 Roms, un très beau film. Et je trouve en plus que le petit passage, ce qu'elle raconte, ça fait écho un peu à votre film aussi. Voilà, enfin, on va en parler. Donc, c'était votre premier rôle au cinéma, 35
Roms ?
Oui,
bien sûr, bien sûr.
Vous gardez quel souvenir juste de Claire Denis, de son regard, de sa façon de filmer, parce que c'est quand même quelque chose.
Alors, il y a ce que ça m'a, il y a ce que l'expérience a déplacé en moi, m'a apporté d'incommensurable, d'extrêmement déterminant, important. Enfin, et puis il y a le souvenir du tournage, c'est très différent, c'est deux choses très différentes. C'était pas évident parce que c'est pour une première expérience, j'avais jamais joué, je me suis retrouvée là comme ça et vous devenez le personnage de Claire Denis, mais comment dire, j'étais pas particulièrement Claire est pas rassurante, c'est pas quelqu'un qui à la fin de chaque prise vient vous rassurer, vous dire que c'était bien, pas du tout. Et donc du coup, juste après la première prise, ni Claire Denis ni Agnès Godard ne m'a rien dit. Je savais pas si c'était bien, je savais pas si c'était nul, aucune idée. Et j'ai trouvé ça super dur. Et en même temps, ça m'a mis en mode petit soldat direct. Je me suis dit, ma petite, l'idée, ça va pas, on va pas venir te faire des compliments, enfin, ouais, on va pas venir te conforter ou te mettre confortable. Enfin, il va falloir que tu comptes sur toi, enfin, que tu n'attends pas la petite récompense après chaque prise parce que ça va pas se passer comme ça, quoi. J'ai compris tout de suite et ça m'a vachement responsabilisée, en fait.
Et alors, vous jouiez Joséphine, en fait, la fille d'un homme noir dans le film, qui est interprétée par Lex Decasse. Et ce rôle, dites-vous, m'a éveillée à une part de moi-même écrasée par ma culture blanche et le milieu artistique parisien dans lequel j'évoluais. Ça a été comme un espèce de déclic par rapport à vous, votre identité, ce rôle-là ?
Mais en fait, j'ai rencontré Claire pile au moment où mon environnement très blanc, parisien, culturel, qui était néanmoins très riche, hein, par ailleurs, mais était quand même très blanc. Je le remettais pas spécialement en question, je m'en rendais même plus compte, en fait. J'avais, à part un ou deux amis noirs, j'avais très peu d'amis noirs autour de moi, et je le questionnais même plus. Et moi, sans m'en rendre compte, je m'assimilais à eux, comme si moi aussi j'étais blanche, comme si... Et même si je savais d'où je venais, du côté de mon père et tout... Quelque part, je m'en éloignais sans m'en rendre compte et j'ai rencontré Claire pile au moment où j'étais dans ce moment-là. Et le fait d'avoir joué le rôle de Joséphine, la fille d'un homme noir, m'a comme réveillée à ma part africaine. Et
alors ça a changé quoi ?
Je pense que Claire savait très 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 bien où est-ce que j'en étais moi en tant que métisse à cet âge-là. Et d'ailleurs, elle m'avait dit quelque chose j'avais appris quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est qu'avant moi, il y avait une fille qui avait été castée. Mais elle avait refusé, cette métisse, de se laisser filmer avec ses cheveux au naturel, comme si elle avait peur de révéler au monde qu'elle avait les cheveux bouclés, les cheveux nègres.
Ça, c'était une question pour vous aussi. Et moi, vous lissiez les cheveux à l'époque.
À l'époque, je me lissais les cheveux.
Ouais.
Et j'étais déjà capable de comprendre le mécanisme qui faisait que cette fille-là se raidissait les cheveux. J'étais consciente de ma propre aliénation aussi. Mais j'ai décidé de le faire parce que c'était Claire Denis, parce que je savais que c'était de toute façon quelque chose qu'il fallait que je déconstruise. Et aujourd'hui, tout le monde, dans la communauté noire, on parle beaucoup de ça. Il y a une libération de la parole par rapport à cette aliénation qui est immense, qui est collective. Mais moi, à l'époque, j'étais seule avec ces questions-là.
Alors donc, vous avez été actrice, puis vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Et puis est venu le temps d'Atlantique, qui est aussi un développement dans vos courts-métrages précédents. Alors on va en parler tout de suite, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute un extrait de la très belle bande originale qui a été composée par une artiste qu'on aime beaucoup sur Nova, Fatima Al-Kadiri. Ça s'appelle Suleiman Stem. Suleiman, c'est un des héros du film. C'était un extrait de la bande originale d'Atlantique, le premier film de Mati Diop. C'est un film très politique qui se passe à Dakar aujourd'hui. Et c'est un film qui est tourné entièrement en langue wolof. Ça, c'est un choix très politique aussi que vous avez eu.
Oui.
C'était clair dès le départ pour vous ?
Très clair.
Parce que moi, j'ai lu dans la presse et ça m'a fait sourire. Vous disiez au départ, pour mon premier film, je devais adapter un roman norvégien qui se passe dans les Alpes. J'étais sur le point d'entrer en développement. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit, que le monde n'avait pas besoin d'un énième film sur deux adolescentes blondes dans la neige. Je trouvais ça très drôle.
Oui, et pourtant, c'est un roman dont je suis follement tombée amoureuse et qui est d'une grande, grande, grande poésie et d'une grande beauté. Mais finalement, mais voilà, enfin, je vais pas me répéter. Ouais, vous venez de le dire.
Non, mais il y avait une urgence.
Et puis j'ai mis beaucoup de ce roman dans le film. Hein. J'ai mis beaucoup de ce roman dans Atlantique.
Alors Atlantique, c'est un film très politique, hein, qui se passe dans le quartier de Tiaroy à Dakar. Donc c'est un quartier du bord de mer, et c'est un film qui va mêler plusieurs histoires, hein, pour aller rapidement. L'histoire coloniale et postcoloniale, ses répercussions aujourd'hui, une histoire de lutte des classes, une histoire de fantômes, et une histoire d'amour aussi tragique, impossible, celle d'Ada qui est promise au mariage avec Omar, un jeune homme riche, qu'elle n'aime pas, et elle est très amoureuse de Suleiman, qui est un ouvrier qui travaille sur le chantier de construction de la nouvelle tour Atlantique, qui est un immense gratte-ciel dont la silhouette plane sur Dakar. Voilà, si on doit résumer, Suleiman part en mer, il y a une péripétie dans le film, on ne va pas dévoiler l'intrigue, mais il part vers Gibraltar, et puis... comme beaucoup de ces jeunes que vous avez rencontrés, parce que l'idée de ce film, je crois, vous est venue suite au printemps dakarois, non ?
Alors, l'idée de ce film est venue à partir de 2008, où j'ai consacré un court-métrage à une situation dont j'ai été un témoin assez proche, dont j'ai décidé d'être un témoin, en fait, plutôt. Bah, c'était au moment où j'étais en train de travailler sur mon projet de film « Mille soleils ». Et à un moment où, au moment où moi, je faisais un retour vers mes origines africaines, ben, j'ai croisé, en sens contraire, toute une jeunesse qui, elle, fuyait ce même pays que je retrouvais par la mer pour rejoindre l'Espagne.
C'était ce mouvement, Barcelone ou la mort ?
C'était exactement ce mouvement-là. Et j'ai, comme je passais beaucoup de temps avec mon cousin, j'ai eu l'occasion, à travers lui, de rencontrer certains de ses amis qui s'apprêtaient à partir en mer ou qui revenaient, qui avaient été rapatriés. Et j'ai discuté longuement avec un certain nombre de garçons. J'ai enregistré nos échanges avec leur complicité. Et j'étais voilà, en train de préparer un premier film qui souhaitait recueillir une parole, le récit d'une traversée racontée par une personne qui l'a expérimentée. Je trouvais ça très important d'entendre cette histoire-là depuis un acteur des faits. Pour moi, c'était vraiment une manière de répondre par le cinéma à cette situation. Et donc ça, c'était Atlantique, ce premier court-métrage avec un S. Et finalement, même si j'ai fait d'autres courts-métrages après, cette situation, cette jeunesse disparue en mer m'a poursuivie, m'a hantée. Et j'ai senti que j'avais besoin de raconter, d'écrire un film plus ample, plus long sur cette situation. Parce que je me suis faite complètement, en fait... En fait, quelque part, moi-même envoûtée par ce qui s'est passé. Envoûtée dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus les personnages du film qui m'ont choisi que l'inverse. Enfin, que j'ai pas eu le choix de raconter. Je pouvais pas raconter autre chose que ça, en fait.
Là, du coup, dans le long métrage, le point de vue, il est plutôt féminin. Il est plutôt raconté par des personnages féminins, en fait. Ça aussi, c'est un truc... C'est au moment de l'écriture que ça s'est imposé à vous.
C'est arrivé assez vite, même si mon projet initial, c'était de parler des garçons. Pour le coup, c'est le printemps d'Akaroua qui est arrivé quelques mois après le printemps arabe, qui m'a à la fois... convaincue que c'était à partir de ceux qui restent, des vivants, qu'il fallait raconter cette histoire des disparus en mer, que j'avais pas le droit non plus de réduire cette jeunesse à celle qui a disparu en mer, qu'il fallait parler depuis le présent, celle qui reste, depuis celle qui vit et qui veut vivre. Non pas que celle qui a disparu en mer ne voulait pas vivre, mais en tout cas celle qui était encore là. Et le féminin, ça s'est imposé à la fois parce que moi-même, je suis une femme et que c'est à partir de moi-même, de mes propres sensations dont j'ai voulu parler.
Vous pouvez raconter, oui.
Et que c'est l'un des personnages du court-métrage Atlantique qui a donné naissance à Ada.
Cette histoire de migration que vous montrez, enfin, dans le film, elle est aussi assez genrée. En fait, c'est les hommes qui partent et les femmes qui attendent. Il y a quelque chose comme ça, quoi, de destin assez tragique et séparé, quoi, dans le film.
Tragique et séparé, mais au fond profondément entremêlé. Et c'est pour ça que tellement entremêlé que les hommes prennent possession du corps des femmes et parlent à travers leur corps. Et c'était aussi une manière de au-delà des hommes et des femmes d'évoquer le fait que quelque part cette jeunesse qui est restée à Dakar, qui n'est pas partie, elle a quand même porté en elle ses disparus et ses morts, et c'est vraiment une manière de parler de ces disparus, de ces morts à travers les vivants, et c'est une sorte de fusion. Le film fusionne énormément d'enjeux, en fait.
Votre film, il parle aussi, dans cette société-là, de rapports de genre, de rapports de classe aussi.
Ouais.
On va écouter un petit extrait dans lequel, je crois que c'est la mère d'Ada qui lui explique comment il faut parler à son mari.
Je suis là.
Je suis là. Je
suis
là. Je suis là.
Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
Voilà, c'est un extrait dans lequel la mère d'Ada lui demande si elle a appelé Omar, et elle lui dit, mais un homme, il faut lui parler avec douceur, il faut lui dire mon chéri, sinon il va prendre une deuxième épouse avant que tu ne tombes enceinte. Hein, c'est bien ça l'extrait. Les rapports, ils sont très genrés dans le film. C'est une société qui est structurée très différemment de la nôtre.
Ah ouais, très très différent. Après, sincèrement, j'aurais du mal à vous expliquer exactement par le menu ce qui différencie les rapports hommes-femmes, parce que c'est un long sujet, quoi.
Bien sûr.
Mais en tout cas, par rapport à l'extrait qu'on vient de d'entendre, je pense que ça donne une idée assez claire de ce que potentiellement, en tout cas dans ces quartiers populaires-là, ce qui est demandé, à l'intérieur de quel cadre le rôle d'une femme s'inscrit, où ça commence, où ça se termine.
Et dans lequel votre héroïne n'a pas envie de s'inscrire, en fait. Parce que
dans lequel elle est déjà inscrite quand le film commence. Mais pour donner une petite idée aux auditeurs qui nous écoutent, elle commence elle passe de sa chambre d'enfant au début du film, et puis finalement elle se réveille à la fin du film dans une boîte de nuit. C'est devenu sa chambre est devenue.
C'est aussi un roman comme ça,
boîte de nuit.
Un trajet d'apprentissage comme ça.
Oui,
d'une...
c'est un récit initiatique. Ouais, c'est vraiment l'idée du film, c'est vraiment le récit initiatique d'Ada, son parcours émancipatoire pris entre le départ en mer de son amoureux et son retour en fantôme.
Le film l'a été reçu comment au Sénégal? Il est sorti là-bas ou
il
pas
est sorti
Il est déjà sorti
Il est sorti le 2 août. Il a été magnifiquement reçu. J'appréhendais beaucoup parce que tout était... Je pouvais m'attendre à vraiment un spectre assez large de réactions. J'ai senti un public qui reconnaissait en fait sa réalité, son quotidien, ses tensions existentielles. Et pour moi, ça a été vraiment une étape... très très importante quoi dans le rapport au film. Cannes c'était évidemment incroyable, mais c'est une chose, la rencontre avec le public sénégalais c'était un rendez-vous très 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 important aussi.
Alors à Cannes vous étiez la première, corrigez-moi si je me trompe, mais vous étiez la première cinéaste noire en compétition. On le reçoit comment ça quand on reçoit cette sélection? Vous représentiez le Sénégal hein, c'est ça?
Oui, exactement.
On le reçoit comment? C'est un truc, c'est lourd à porter, c'est une fierté, c'est...
Ouais, ce qui est difficile, c'est que ça faisait quand même beaucoup de choses à la fois, en fait.
Ouais.
À la fois finir...
Pour un premier film.
À la fois finir un long métrage, redescendre de cette aventure d'une très grande intensité.
Ouais. Un projet de plusieurs années.
Voilà, je veux dire, redescendre de cette intensité-là, se retrouver en compétition... réaliser qu'en effet, on est la première femme noire à monter les marches. Les journalistes cherchent à impacter, à prendre le film plus par rapport au sujet et à ce que le réalisateur ou la réalisatrice représente que parler du fond du film.
Vous aviez peur de ça, justement
Du coup, c'était assez violent parce que c'était pas forcément une entrée en matière qui parlait du film. Elle parlait surtout de ce que je représentais.
Oui.
En fait, donc du coup, en gros, c'était surtout, je me suis surtout retrouvée au centre d'énormément d'enjeux. Enfin, c'était compliqué. Après, je me sentais pas plus gênée par le fait que ça prenne autant de place. Sur le moment, j'ai trouvé ça, après tout, assez normal que ce soit mis en avant parce que c'est historique, ça n'est pas arrivé avant. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé le fait que ça n'était pas arrivé avant et que c'était hallucinant que ça ne soit pas arrivé avant.
Ouais.
Moi, c'est avant tout ça que ça m'a rappelé. Là où ça aurait pu me mettre dans une situation un peu délicate, c'est que je ne voulais pas non plus me servir de ça, surfer sur cette espèce de fierté communautaire ou tout d'un coup mettre en avant, moi-même mettre en avant le fait que, oui, c'est vrai, je suis noire et d'ailleurs, je le revendique. Enfin, il fallait faire attention à surtout pas tomber dans des choses que je ne suis pas, dans des revendications dans lesquelles je n'ai jamais vraiment été. Et surtout de ne pas, par défaut ou malgré moi, que ça devienne opportuniste en fait.
Ouais, non mais bien sûr. Bon après il y a le Grand Prix qui est arrivé, qui a aussi permis d'équilibrer tout ça,
qui a calmé tout le monde.
Ouais.
non mais je plaisante. Mais d'un côté c'est vrai que moi ça m'a tout d'un coup ça remettait aussi un peu le cinéma au cœur du
Exactement,
débat.
Exactement, c'est ça que je veux dire.
Oui, c'est la première femme noire à avoir monté les marches de Cannes, d'accord. Mais si un jury de cinéastes composé entre autres de Kelly Richard, Iñárritu, lui décerne ce prix, on tout d'un coup ça vient confirmer un premier choix qui aurait pu être perçu comme un ensemble de raisons plus ou moins claires. C'est pas à moi de, à vrai dire, de remettre ça en question en fait.
Et si je vous demande votre sentiment ou votre analyse, comme vous voulez, du cinéma français par rapport à la diversité, on se rappelle qu'il y a 2 ans à Cannes, il y avait eu ce collectif d'actrices Noir n'est pas mon métier, il y avait Aïssa Maïga et 17 autres actrices, je crois, de mémoire, je cite ça, peut-être je me trompe, je crois que c'était 17, et qui expliquaient à quel point c'était difficile d'obtenir des rôles ou, quand elles en obtenaient, d'échapper à des stéréotypes. On en est où pour vous?
On en est où? C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans.
Ouais.
Je ne sais pas où on en est, dans le sens où c'était à la fois hier et en même temps, qu'est-ce qui a réellement bougé depuis? pas grand chose, et en même temps c'est pas vrai, cette manifestation-là a eu lieu. Moi, je sais pas très bien comment me positionner vis-à-vis de ça, parce que d'un côté, je pense que, disons que je salue et je respecte cette démarche, et en même temps, c'est vrai que pour l'instant, je me sens légitime et juste dans ce type de combat.
À l'endroit où vous êtes.
Qu'à l'endroit où je suis, ouais. C'est-à-dire dans
votre singularité.
Celui du cinéma. Moi, quand j'ai joué avec Claire Denis, j'avais potentiellement envie de continuer à jouer. La raison pour laquelle j'ai pas poursuivi, c'est parce que j'estimais que les rôles qu'on proposait ne m'intéressaient pas suffisamment, que je les trouvais pas à la hauteur du cinéma que j'ai envie de voir au cinéma. Bah, du coup, j'ai écrit. J'écrivais déjà. Je voulais déjà devenir réalisatrice, mais. C'est difficile, quoi. Moi, je peux parler que de mon endroit. Ouais.
Ça a renforcé ce désir-là chez vous, en tout cas.
Peut-être que maintenant que j'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer, j'ai très clairement, je pense, dans le sens où j'ai fait aucun compromis. Et ben maintenant, s'il y a des projets plus intéressants, où je pourrais davantage avoir envie de jouer aujourd'hui, parce que voilà,
parce que vous êtes affirmée.
Ouais, c'est ça.
On écoute un peu de musique, c'est encore un titre que vous avez choisi, John Carpenter, Last Sunrise.
Dans le genre de...
Mathis Diop, quel rapport entretenez-vous avec votre physique ?
Oh ben, je suis assez obsédée par mon physique. Hein.
C'est vrai ?
Ouais. Non, mais ouais, je suis pas du tout en mode, j'y pense pas, je me regarde jamais dans la glace, ça ne compte pas.
Vous y accordez de l'importance, quoi. Ouais.
Ouais, carrément.
Alors, que mettez-vous en avant pour séduire, vous ?
Bonne question. Ça dépend qui.
Je sais pas, comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez.
C'est une question. Elle est hyper intime, celle-là. Attendez.
Alors, vous pouvez ne pas répondre. Hein. Vous avez le droit de ne pas répondre. Alors, est-ce que vous auriez aimé ou est-ce que vous aimeriez être un homme ?
Moi, non, pas du tout.
Pas du tout ? Ça vous a jamais.
Non, je me suis pas du tout. Je me suis jamais. Ça m'est arrivé de me poser la question, mais je ne pense pas que je me sente en tant que femme limitée ou emprisonnée dans quelque chose. Non, et puis en plus, ça fait un moment que je vis ma féminité dans sa, enfin je me sens autant féminine que masculine,
donc avec une grande liberté dans la façon de la vivre.
Ouais, plutôt.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes ?
Peut-être il y a quelque temps, oui, mais de moins en moins.
Vous auriez été comment ?
Sincèrement, j'ai la chance d'arriver à un moment de ma vie où je commence à être très contente de la vie que je mène et des choix que j'ai faits. Et
donc non,
en fait.
Ben merci Mathilde Diop, ça sera notre mot de la fin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuo. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.